Voilà, bien, je vous invite à ouvrir en effet l'Écriture sainte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, qui, comme certains ne l'ignorent pas, a été appelé l'Évangile de l'Ancien Testament. Hein, donc, et nous allons lire au chapitre 42 et au verset 18. Et nous allons lire jusqu'au chapitre 43 et au verset 10. 42, 18. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés, personne ne dit « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses ? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir ? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard ? N'est-ce pas l'Éternel ? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne ! Et au midi, ne retiens point ! Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. Amen. Vous avez remarqué que dans ce texte, il est pas mal question de sourds et d'aveugles, hein ? Déjà dès le départ. Dès le départ, il en est question. Mais il s'agit d'infirmités quand même particulières, parce qu'il nous est dit qu'avant de devenir des infirmités, ce furent des défauts volontaires. C'est-à-dire que, sourds, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu tenir compte de ce qu'ils ont entendu. Aveugles aussi, parce qu'ils n'ont pas voulu voir, ni tirer les conclusions de ce qu'ils avaient vu. On le dit bien, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà, on est devant cette réalité-là. Et c'est ainsi que les deux infirmités dont il est question là les ont véritablement atteints comme un jugement de la part du Dieu Tout-Puissant qui avait voulu leur parler en leur faisant entendre et voir des choses importantes et vitales pour eux. Et c'est ainsi que ces hommes sont devenus des sourds et des aveugles, c'est-à-dire des infirmes sur des quantités de points. Des êtres aux capacités limitées, incapables de discerner à cause de leurs péchés, beaucoup des plus grandes et des plus évidentes merveilles de Dieu. Et cependant, notre passage nous explique que Dieu veut les délivrer de leur surdité et de leur aveuglement et qu'il veut le faire sans plus tarder. Et ce passage veut nous expliquer aussi que Dieu a encore de bons désirs à l'égard de ces sourds et de ces aveugles, malgré leur culpabilité. Et il veut, ce passage aussi, nous donner les moyens que Dieu veut utiliser pour y parvenir et les buts qu'il vise. Et c'est pour ça que la suite de notre message, elle épousera tout naturellement le plan de notre texte et nous pourrons voir quatre choses. En premier, nous pourrons parler de cette preuve de l'amour de Dieu par l'abaissement volontaire de Christ, dont il est question versets 18 et 19. Ensuite, nous parlerons des raisons précises de cet état d'aveuglement et de surdité des hommes, dont il est question du verset 20 au verset 25. Et ensuite, nous pourrons parler du message d'amour et de délivrance que Dieu a néanmoins pour eux. Donc ça, c'est au début du chapitre 43, versets 1 à 7. Et en conclusion, les buts auxquels Dieu veut parvenir par tout cela. Donc c'est les versets 8 à 10 du chapitre 43. Donc en premier, voici l'épreuve de l'amour de Dieu par l'abaissement volontaire de Christ. Dès le départ, nous avons la preuve bien claire de l'amour de Dieu en Christ. Ceci pour montrer aux hommes les bons désirs et les bonnes intentions qu'il a envers eux. Car celui dont il est question là, c'est bien Christ, le Seigneur, qu'on peut le voir par les qualificatifs qui lui sont attribués. Regardez bien dans le verset 19, il est parlé du serviteur de Dieu. Juste après, il est parlé du messager qu'il envoie. Toujours dans le verset 19, il est question de l'ami de Dieu. Et puis il est question encore du serviteur de l'Éternel. Et personne n'a jamais correspondu comme Christ à chacun de ces titres et à eux tous ensemble. Voilà. Et il nous a dit quoi au sujet de cet ami de Dieu, de ce serviteur fidèle de l'Éternel ? C'est qu'il s'est rendu lui-même sourd et aveugle pour pouvoir mieux se rapprocher justement de qui ? Ben de l'homme tombé dans le péché. Pour pouvoir mieux le comprendre et pour pouvoir mieux se faire comprendre de lui. Pour prendre une image, c'est l'histoire de cet homme qui a vu une fourmilière qui était menacée par je ne sais plus quel danger, voilà, mais dont les nombreux habitants, enfin les nombreuses fourmis, étaient parfaitement inconscientes de ce qui risquait de leur arriver. Et l'homme, il voit ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? Comment est-ce qu'il peut leur expliquer ? Alors il s'est dit en lui-même, le seul moyen de leur expliquer, ben, ce serait de devenir fourmi et de leur parler en langage de fourmi. Mais l'homme, s'il avait la possibilité d'une telle chose, voudrait-il s'abaisser ainsi ? Hein ? Voilà, c'est une question. Voici une petite citation, une petite poésie, plus ou moins amusante, qui a pour titre « Ce que les singes pensent des hommes ». Voilà, je vous lis ça. « Trois singes dans un arbre discutaient. » Et de beaucoup de choses s'entretenaient. Il semblerait, dit l'un d'eux, qu'il court une rumeur qui me met, moi, de très mauvaise humeur. On prétendrait, cette injure m'agace, que l'homme descendrait de notre noble race. Mais jamais singe ne laissa femme et enfant mourir de faim dans le dénuement. Jamais non plus la dernière des guenons ne laissa ses enfants dans l'abandon. Elle ne les enverrait pas de foyer en foyer jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus qui les a procréés. Jamais non plus on n'a vu ni singe ni guenon rentrer le soir tard sous comme un cochon ou faire passer les autres de vie à trépas avec bâton, fusil ou je ne sais quoi. Que l'homme soit descendu, c'est un fait. Mais que ce soit de nous, alors ça, jamais. Voilà. Donc, ceci pour nous montrer que le fait de devenir un homme, de devenir semblable à un homme, dans les infirmités qui ont été la conséquence de sa désobéissance, ça n'a pas du tout été un privilège pour Christ. Ça a été vraiment un abaissement vertigineux dont nous n'avons même pas l'idée. Il faut se dire cela. Christ, donc, s'est abaissé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment s'est-il abaissé ? Eh bien, il a quitté la gloire suprême qu'il avait avant que le monde soit, cette autorité suprême qui était la sienne de toute éternité, cette lumière inaccessible qui était dans sa personne bénie. Il a quitté cette communion parfaite et sans remise en question avec le Père par l'Esprit. Il a laissé tout cela et il s'est abaissé. Il s'est abaissé en prenant un corps de chair semblable au nôtre avec toutes ses immenses limitations. Parce que notre corps, il est très limité par rapport à ce que Christ connaissait, à ce que Christ savait. Donc, des limitations, des imperfections, des sens limités, des forces limitées, une confrontation continuelle avec le péché sous toutes ses formes dans le monde, un raisonnement même limité, une perte de connaissance spirituelle même, qu'on peut dire dans le fait qu'il dit qu'il y a des choses que le Père connaît, mais que le Fils, dans son état du moment sur la terre, ne connaît pas. Voilà. Donc, il s'est abaissé volontairement, mais d'une façon tellement réelle que beaucoup ont cru que c'était d'une manière définitive. Hein. Alors certains ont prétendu qu'il n'était qu'une créature, alors qu'il est de toute éternité. Hein. Et puis d'autres n'ont vu en lui qu'un prophète, alors qu'en fait il est la parole de Dieu faite chair. Hein. D'autres encore n'ont discerné en lui qu'un homme, même en lui reconnaissant des qualités exceptionnelles, alors que toute la plénitude de la divinité demeure en lui. Et c'est ainsi que des jugements hâtifs, formulés dans l'incrédulité, dans l'orgueil, le manque de connaissance des Écritures et des desseins de Dieu, le manque de plénitude du Saint-Esprit, ont amené à de grandes erreurs concernant Christ. La réalité se trouve, par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 6, où je vous lis « Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Et ainsi, Christ s'est rendu quelque part volontairement aveugle et sourd comme nous, mais sans succomber au péché, comme nous l'avons hélas tous fait. Et ceci afin de pouvoir nous apporter le message de Dieu pour que nous puissions le comprendre. C'est pour ça que Jésus a fait ça. Message de repentance, message d'amour et de délivrance, message de décision, d'engagement auquel nous sommes appelés. Et ceci nous amène à notre deuxième grand point. Donc, c'est cette fois-ci, dans le chapitre 42, toujours du verset 20 au verset 25, les raisons précises de l'état d'aveuglement et de surdité des hommes. Alors, quelles sont ces raisons? Eh bien, déjà, en premier, au début du verset 20, « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. » Dieu a montré aux hommes beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu en tenir compte. Dans l'Épître aux Romains, il est marqué au chapitre 1er, « Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans la création magnifique au milieu de laquelle nous sommes. Cette création magnifique qu'il a opérée avec tant de variétés, tant de perfections admirables, de toutes sortes de façons. Et donc, n'ayant pas tenu compte de la perfection de la création de Dieu pour le rechercher et pour venir à lui, ils ont été rendus aveugles spirituellement. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, il y a aussi les miracles que beaucoup ont pu voir, dont ils ont pu être témoins, ou les résultats de miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont eus devant les yeux, et dont ils n'ont pas tenu compte non plus pour se tourner vers le Dieu vivant. Ensuite, vous avez eu encore les signes et les événements solennels qu'ils peuvent tous voir les uns ou les autres, même dans l'histoire, vous savez. Rien que l'existence du peuple d'Israël dans son pays, lorsque vous réfléchissez à la manière dont ça s'est fait et dont ça a été prophétisé dans la Bible, c'est un signe indiscutable de l'intervention de Dieu dans l'histoire et dans l'actualité. Mais ils ne veulent pas en tenir compte. Vous savez, Dieu a des moyens par lesquels il s'adresse particulièrement à tout homme. Mais veut-il bien voir ? Et puis après, je vois encore, il y a aussi, dans la suite du verset 20, les nombreuses choses qu'ils ont pu entendre. Il est marqué là, on a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté tout leur cœur. Hein. Donc, que d'appels de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Hein. Que le témoignage à la gloire de Dieu, qui sont autant d'exhortations et d'encouragements à venir à lui. Que de messages, que d'encouragements à l'obéissance, à la soumission à Dieu et à sa parole. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Hein, ils veulent en faire à leur tête, voilà. Non, donc, puisqu'ils n'ont pas tiré les conséquences dans leur vie, les voilà devenus spirituellement sourds. C'est ce que dit notre texte. Et Dieu avait pourtant promulgué une loi excellente. Et c'est le contenu du verset 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est vrai. La loi de Dieu, telle qu'elle a été donnée à Moïse, est quelque chose d'admirable en tout point. Elle est en tout point bien réglée et offre pleine sécurité. Dans sa simplicité, Malgré tout, c'est une perfection admirable. Elle couvre tous les aspects de la vie. Tous y sont traités d'une façon ou d'une autre. Et Dieu avait pris soin de tout pour que son peuple puisse être parfaitement heureux, afin qu'ils puissent marcher dans le plan qu'il avait préparé pour eux, afin de les emmener finalement dans son ciel. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu, là encore, parce qu'ils n'ont pas voulu tenir compte de cette loi, parce qu'ils n'ont pas voulu s'y soumettre, et ça c'est encore malheureusement de plus en plus visible aujourd'hui, eh bien ils sont dans cette malédiction de la surdité et de l'aveuglement avec ses tristes conséquences. Mais non seulement cela, il est marqué qu'ils s'y sont opposés volontairement. C'est très clair dans le verset 24, la deuxième partie du verset 24, il est marqué « Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, ils n'ont point écouté sa loi. » Ça veut dire que leur désobéissance à Dieu, ce n'est pas juste un accident, ce n'est pas juste le résultat d'une ignorance, d'une distraction, d'une inconscience, mais c'est un refus volontaire, c'est une volonté opposée. Vous savez, tout homme a une volonté. Nous avons tous une volonté, hein, chacun. Et cette volonté, on peut l'orienter dans un sens ou dans un autre. Mais ça veut dire aussi que nous avons tous une responsabilité. Responsabilité pleine et entière qu'on ne peut pas reporter sur autrui. Et c'est pour ça que la désobéissance et l'insoumission à la loi de Dieu, c'est quelque chose qui doit être reconnu et confessé devant lui, devant Dieu, comme des péchés volontaires et dont les conséquences sont justes telles que proclamées par la parole de Dieu. Il nous est parlé aussi d'un refus de comprendre malgré même des fléaux. Dans la fin du verset 25, il est marqué « Il n'a point compris. Elle l'a consumé, la guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. » Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah ben, vous voyez la conséquence du monde. Hein. S'il y a un problème, une injustice quelque part, ils vont dire « Mais si Dieu existait, ça ne devrait pas être comme ça. » Par contre, quand on leur dit « Mais soumettez votre vie à Dieu, ah ben ils disent non, il faut qu'on garde notre liberté. » Vous voyez ? Alors comment sont les gens ? Hein ? Alors, ils sont là, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent, et puis après, quand il y a les conséquences de leur volonté qui arrivent, alors ils se demandent comment ça se fait que Dieu n'agit pas. Vous voyez l'injustice de cette façon de penser ? Et pourtant, vous voyez combien, malheureusement, elle est répandue. Et quand on se trouve dans le malheur, eh bien, on devrait tout spécialement chercher à comprendre. Et on pourrait rapidement comprendre. On pourrait rapidement le faire. Et que d'hommes aujourd'hui, qui sont, comme il est dit dans le verset 22, pillés, dépouillés par le diable, est-il marqué, enchaînés par leurs passions, par leurs vices, prisonniers dans les cavernes, dans les cachots de leurs péchés. Hein, on voit aussi ça dans le verset 22. Sans possibilité humaine de délivrance de leur maladie ou de leurs infirmités, toujours dans la suite du verset 22. Sans secours de personne dans leur misère, dans les injustices dont ils sont victimes. Et tout ça à la base, à cause de quoi ? À cause du refus de comprendre. Eh oui. Et il nous est parlé encore d'un refus de prendre garde. Comme il est dit là encore, dans la fin de ce verset 25, « Il n'y a point pris garde ». Vous savez, on devrait se tenir sur ses gardes, hein, dans cette existence qu'on mène ici-bas. Hein. Beaucoup se déchargent d'une façon qu'ils pensent commode sur le hasard. Voilà. Alors c'est le hasard, ben oui, c'est le hasard, ou alors ouais, c'est comme ça, c'est par hasard, c'est la nature, je ne sais pas. Mais les hommes devraient prendre garde aux avertissements de Dieu, hein, donc aux événements des temps, à ce qui leur arrive. Et s'ils le faisaient, ils éviteraient bien des malheurs et pourraient saisir bien des bénédictions. Et ainsi voyons-nous donc, au long de ces quelques versets, des raisons qui sont données précises de l'aveuglement, de la surdité humaine, avec les jugements qui en sont les conséquences. Mais voici notre troisième point, parce que Dieu, quand il a fait ce constat, il ne s'arrête pas là. Le troisième point, c'est dans le chapitre 43 du verset 1 à 7, ce message d'amour, d'espoir, de délivrance que Dieu a néanmoins pour eux. Déjà, voyez qu'il s'agit d'un message de rachat et d'appartenance personnel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Donc, vous voyez qu'il est question là, et c'est une grande merveille, c'est que ce Dieu-là, ce Dieu si grand, eh bien, il s'occupe de sa créature d'une façon particulière. Il la connaît par son nom. Hein, voyez. Et ça, c'est certainement une bonne nouvelle pour tout homme, en particulier pour tous ceux qui, peut-être, ne sont pas considérés autour d'eux. Hein, tous ceux qui sont insignifiants aux yeux de leurs semblables. Il est merveilleux de savoir que pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Bien sûr, à condition de placer sa confiance en lui. Mais je crois que c'est un puissant encouragement à nous attacher tout entier à lui. Un Dieu qui t'aime et qui s'occupe de toi personnellement. Amen. Qui t'appelle par ton nom, qui te tutoie comme il est question là. Et puis voyez qu'il s'agit aussi d'un message de protection et de secours. Verset 22, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les dangers les plus extrêmes, les plus variés, les plus opposés, eh bien, cette puissance de Dieu est là pour nous protéger. Car qui a-t-il le plus opposé que l'eau et le feu ? Hein, comme il en est parlé là. Donc, et nous voyons que la puissance de Dieu pour secourir les siens est efficace dans chacun de ces cas. Et ça encore, c'est une garantie merveilleuse qui peut mettre et garder dans une grande paix, dans toute situation, ceux qui s'engagent à suivre la parole de Dieu. Amen. Et si j'avance encore un peu, eh bien, je trouve là, au verset suivant, verset 3, un message de sauveur personnel. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Alléluia. « Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, etc. » Donc, nous voyons là. Hein. Non seulement le Seigneur connaît le croyant par son nom, comme il était question dans le verset premier, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Mais le Seigneur est celui qui véritablement veut accomplir cette œuvre pour lui. Il appartient, le croyant appartient à Dieu. Et remarquez bien, l'inverse est vrai aussi et annoncé dans ce merveilleux message, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même appartient aux croyants. Ton Dieu, ton Sauveur. Ça veut dire que par la foi, le croyant a en quelque sorte des droits sur Dieu. Ah oui, hein, ça nous paraît surprenant, mais ça veut dire que le fidèle est en droit d'exiger de la part du Tout-Puissant qu'il accomplisse ses promesses, ses bonnes promesses, suivant tout ce qu'il a octroyé dans sa parole. Et c'est ainsi donc que nous pouvons crier à lui de tout cœur et avec persévérance et que nous pouvons le voir nous faire promptement justice. Amen. Amen. Et puis voici encore une autre chose que je peux voir dans ce même verset 3. C'est un message de sainteté. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il est le Saint d'Israël. Saint d'Israël, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est mis à part pour Dieu. La sainteté, c'est ça. La sainteté, c'est la mise à part. Mise à part pour. Mise à part pour Dieu. Mise à part, séparé du péché, de ce qui est étranger à Dieu et à sa volonté. Et qui appelle aussi à ce qu'on se sépare. De ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre propre existence. Et certainement, voilà encore un point non négligeable de ce message divin, et nous ferons bien de le mettre en pratique pour voir s'accomplir les bénédictions d'en haut. Amen. Et puis c'est aussi un message de préférence. Ah, ah oui, c'est vrai. Dans le verset 4, il est marqué « Parce que tu as dû prier à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Oh, c'est bizarre ça. Pourtant, l'Écriture nous dit aussi, par ailleurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il l'a abondamment prouvé de diverses façons, dont nous avons pu un peu parler déjà jusque-là. Mais ceci étant dit, Dieu manifeste quand même ses préférences pour ceux qui marchent dans ses voies. Dieu ne répond pas aux prières de tous les hommes. Dieu répond aux prières de ceux qui se confient en lui. Donc, à leur prière, il va répondre. C'est sur eux qu'il va mettre sa puissance de guérison. Hein. Ce sont leurs œuvres qu'il va bénir en abondance. C'est d'eux qu'il va prendre soin continuellement du début à la fin de l'année. Comme Dieu, rappelez-vous, a pris soin de Noé et des quelques-uns qui l'ont suivi, plutôt que de toute une humanité impie et incrédule. Et nous pourrions voir qu'il a toujours été ainsi. Il a été de même pour Abraham en son temps. Il a été de même pour le prophète Daniel ou d'autres. Hein. Ce sont ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce sont ceux-là eh bien, qui, aux promesses, aux besoins desquels il sera pourvu, pourvu pleinement et fidèlement. Et c'est le sens de ce verset qui parle de prix à ses yeux, qui parle d'honneur devant lui et qui parle d'amour divin. Amen. Amen. Et vous avez là ensuite encore un message de rassemblement. C'est ce qu'on voit dans les versets 5 et 6. Ne crains rien, je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient Arras. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, donne, au Midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est vrai. Même ceux qui sont les plus éloignés. Vous savez, les gens, ils sont très éloignés de Dieu. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Il y a des gens, ils sont très très loin dans les profondeurs du péché, loin de Dieu. Et pourtant, le Seigneur veut les rassembler. Et le Seigneur veut les sauver, et il veut les attirer à lui. Hein. Et c'est vrai que c'est là, dans ce rassemblement qui est fait en son nom, c'est là qu'il répand sur son huile sainte et qu'il veut mettre la bénédiction pour l'éternité. Et c'est pour ça que tout véritable croyant a besoin de se joindre à une assemblée, de demeurer attaché à une assemblée de vrais croyants. Parce que ça va être pour lui un moyen de bénédiction de Dieu, ça va être un moyen de formation et d'enrichissement voulu par Dieu au contact des frères et sœurs dans la foi, ça va être un moyen de travail pour Dieu, et puis ça va être une préparation au plus grand rassemblement, au rassemblement éternel et parfait qu'il y aura dans la gloire du Seigneur, la gloire du Père, lorsque nous serons toujours avec lui. Amen. Amen. Enfin, voici un message de plan et de projet d'avenir. C'est ce qu'on voit aussi dans les versets 6 et 7. Hein, donc, voilà, que j'ai donc ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. Vous savez, le Seigneur nous a donné la vie. Nous sommes appelés à louer Dieu de ce que nous sommes, une créature si merveilleuse, chacune, chacun d'entre nous. Au début et à la fin du message, remarquez bien, il nous a dit que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui nous a formés. Au début du passage, hein, donc verset 43, verset 1, celui qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Et ensuite, fin du verset 7, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc, et si Dieu le fait, c'est pas comme ça au hasard. C'est pas simplement, hop, allez, tu es lancé dans l'existence, débrouille-toi, puis c'est fini. C'est pas comme ça. Hein. Non, non. Dieu a un plan pour nous. Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Et puisque nous sommes tous différents des autres, chacun des uns des autres, il a un projet particulier pour chacun. Et il faut réaliser cela, et il faut le savoir, et il faut le chercher. Les philosophies insensées de l'époque nous disent aujourd'hui que nous retournerons au néant, hein, mais le Seigneur affirme qu'il a pour nous un avenir et une espérance. Alléluia. Nous avons été créés pour sa gloire. Hein. Donc, pour avoir une place importante dans l'accomplissement de sa volonté, dans la réalisation de ses desseins, c'est pour ça que nous avons été mis ici-bas et que ce merveilleux message nous est adressé. Il y a un service béni et éternel ici-bas et ensuite pour dans l'éternité pour ceux qui marchent pour Dieu. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il leur faut chacun se dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel est ton plan pour la suite de ma vie? Quels sont les projets que tu as pour nous? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, ou ta servante écoute. Si tu me dis d'aller à droite, Seigneur, j'irai à droite. Si tu me dis d'aller à gauche, eh bien c'est là que j'irai. Tu dis que celui qui t'aime, c'est celui qui garde tes commandements. Je veux donc dès aujourd'hui, Seigneur, être fidèle à ta parole bénie et ne laisser tomber aucune de tes paroles à terre. Amen. Amen. Et voilà comment ce merveilleux message doit être reçu et comment il portera pleinement son fruit. Alléluia. Et en conclusion, ces versets 8 à 10 nous expriment la volonté de Dieu de s'adresser à tous les hommes. Pour leur parler à tous. Hein. Verset 9, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Ce message est universel. Hein. Et Dieu veut les délivrer de cette surdité, de cet état d'aveuglement, avec la culpabilité qui en est cause, pour qu'ils puissent le reconnaître, pour qu'ils puissent s'en repentir et qu'ils puissent donner gloire à Dieu. Et qu'ils puissent aussi recevoir bénéficier pleinement de ce message de salut, pour qu'ils s'attachent de tout leur cœur à ce Dieu qui prouve encore, finalement, sa divinité unique et parfaite en proclamant des prophéties qui s'accomplissent exactement. Regardez le verset 9. Il dit, qui d'entre eux a annoncé ces choses? lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins, établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Bien entendu, il n'y a personne qui peut le faire. Hein ? Et lorsque vous regardez au verset 12, il est marqué encore, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, nul le délivrera de ma main, j'agirai, qui s'y opposera ? Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce qu'encore aujourd'hui, eh bien, nous voyons que ce message, proclamé pourtant il y a bien longtemps, 8 siècles avant Jésus-Christ, voyons que ce message s'applique exactement à notre humanité. Il s'applique exactement à notre situation du moment. Il s'applique exactement à la position de chaque être humain, de chacune, de chacun d'entre nous, Seigneur, à ce besoin fondamental que nous avons d'être pardonnés, ce besoin fondamental que nous avons d'être graciés, ce besoin puissant que nous avons d'être transformés par ton esprit, de manière à ce que nous soyons délivrés de toute surdité, que nous soyons délivrés de tout aveuglement, que nos yeux puissent s'ouvrir et qu'enfin nous puissions voir et que tu puisses accomplir en chacune et en chacun ton œuvre de salut, de délivrance, ton œuvre puissante de guérison, ton œuvre puissante de transformation. Merci notre Sauveur, c'est là ton désir, c'est là ta promesse, c'est là ta parole, Seigneur. Si nous pouvons avoir quelque assurance ce soir, eh bien c'est parce que nous pouvons nous appuyer sur cette promesse encore maintenant, et nous voulons le faire encore. Béni sois-tu notre Sauveur, merci pour cette œuvre, sois glorifié mon Dieu. Amen.